Alain Bokovza, bonjour. Vous
Bonjour.
êtes responsable de l'allocation d'actifs mondiale à la Société Générale. On va parler avec vous de ces marchés, des perspectives sur ces marchés, comment vous les voyez évoluer justement. Alors pour beaucoup d'investisseurs, hein, il y avait eu ce rebond de début d'année qui était un peu justifié quelque part, une nouvelle prise de risque après une fin d'année 2011 qui avait été quand même assez dure en termes de peut-être de peur pour les investisseurs. Qu'est-ce qui a le plus changé pour vous justement sur cette vision des investisseurs?
Alors, je pense qu'il y avait effectivement beaucoup trop de pessimisme à la fin de l'an dernier. Certains parlaient d'éclatement de la zone euro, parlaient d'accidents graves, de défauts des pays à l'intérieur de la zone euro à répétition, voire de l'allégresse. Or, ce qui s'est passé, c'est toujours une sorte de solidarité qui est dure à bâtir à l'intérieur de la zone euro pour aider les pays en grande difficulté. Il y a eu un accord historique qui s'est fait sur la restructuration de la dette grecque récemment. D'autres pays des périphériques, hein, de la zone euro, en ce moment c'est l'Espagne qui pose un peu de problème, sont toujours en phase de restructuration, sont en phase d'amélioration de la compétitivité. Ce sont des efforts considérables que ces pays doivent mener. L'Italie est en train de le faire aussi. Donc la direction de l'histoire va dans le bon sens, mais elle est nécessairement heurtée. En tout cas, les 2 premiers mois ou 3 premiers mois de l'année reflétaient trop de pessimisme sur des scénarios catastrophes. La BCE a fait un travail gigantesque d'abreuver le marché avec des liquidités. Donc ça a rééquilibré un petit peu les enjeux de jusqu'où on peut aller en matière de pessimisme.
Oui, alors on pourrait dire que le dossier espagnol qui surgit en ce moment peut-être donne raison à ceux qui pensaient et considéraient que finalement on gagnait du temps, mais qu'après la Grèce, effectivement, d'autres pays périphériques allaient être concernés par ces questions de dette.
Alors, la problématique de l'Espagne n'est pas trop une problématique de dette. C'est un pays qui est moins endetté que la France, hein, l'Espagne. En revanche, il y a des problématiques de cachotterie. Quelque part, il y a eu beaucoup plus de déficit en 2011 que ce qui était attendu, et beaucoup plus, 2,5 points de PIB en plus. Il y a une problématique de résorption des surcapacités dans le marché immobilier qui ne sont pas complètement assainies. Ça, c'est un travail qui a été un petit peu mis de côté, qui repart en ce moment avec le nouveau gouvernement. Et il y a la restructuration du secteur bancaire, notamment des groupes non cotés en Espagne, qui pose toujours des problèmes. Il y a des dettes aux promoteurs immobiliers dans les bilans bancaires en Espagne qui posent problème. Donc c'est un travail que fait l'actuel gouvernement, qui est très dur sur le plan social, évidemment, sur le plan économique, puisque ça inclut beaucoup d'acteurs. Mais je pense que la direction vers laquelle l'Espagne va est la restructuration de ses problèmes, l'amélioration en termes de la compétitivité. Donc oui, il y a un mini-feu qui est actuellement fait en Espagne. La vraie question, c'est est-ce que le gouvernement est à la hauteur des enjeux et des réponses qui doivent être apportées? Ma réponse est plutôt oui. Donc à court terme, on a de la volatilité. On avait quand même beaucoup monté depuis début novembre, donc les marchés corrigent un peu, ça n'a rien de choquant.
Alors justement, hein, ces questions-là semblent un peu récurrentes. C'est vrai qu'elles avaient été mises de côté après le sujet grec, puis on les voit réapparaître. Ça nous donne quel type de scénario justement sur cette année 2012? Puisque on a envie de dire, tiens, on a fait un peu comme en 2011, on est parti très vite, les investisseurs ont racheté en début d'année, et puis à nouveau des problèmes surgissent, et à nouveau il y a de nouvelles craintes qui arrivent. On pourrait dire qu'il y a eu aussi la hausse des cours du pétrole, hein, sur ce trimestre.
Alors, dans l'accident qui a été connu à partir de mai en 2011, les 2 tiers pour nous de cet accident sont dus à l'événement japonais. Souvenez-vous, il y a un événement majeur sur le plan climatique, il y a un tsunami, il y a un accident gravissime sur le plan nucléaire. C'était quand même 25% de la capacité énergétique du Japon qui a disparu. Et il y a aussi les inondations en Thaïlande qui ont provoqué tout un tas de dérèglements dans la chaîne de valeur ajoutée, notamment des produits de technologie et de biens d'investissement partout dans le monde. Donc ça a été un choc de croissance qui a provoqué entre juillet et août une correction majeure quand on s'est aperçu de ces conséquences-là. Sauf à prédire ce genre d'événement en 2012, si correction il y a, elle est peut-être déjà en cours pour les actifs de type action, moi j'imagine pas du tout une correction d'ampleur similaire parce qu'on n'a pas cet accident-là. En revanche, on a effectivement un trou d'air conjoncturel en ce moment dans la zone euro, à force de plans d'austérité d'un côté, et il n'est pas impossible qu'il y ait un petit peu trop d'optimisme du côté américain, en disant tous les économistes, le consensus des économistes est devenu trop optimiste sur les États-Unis, on est un peu vulnérable là-dessus de part et d'autre. Globalement, on garde un biais favorable aux États-Unis par rapport à la zone euro, il y a moins de problèmes aux États-Unis, donc la surperformance des actions américaines devrait persister.
Alors, on avait vu aux États-Unis, c'était effectivement le futur plan QE3, le débat sur le QE3. On voit qu'il y a un vrai débat, hein, même au sein de la réserve fédérale américaine sur ce sujet, savoir est-ce qu'il faut que la réserve fédérale américaine, effectivement, à nouveau alimente le marché, alors peut-être de manière différente. Ce débat n'est pas tranché, ça peut ça aussi faire bouger les marchés.
La nature des débats entre les deux banques centrales américaines et européennes est très différente. Aux États-Unis, ils ont fait déjà deux phases de quantitative easing, on débat du troisième. Il n'y a aucun débat sur le fait que si l'économie américaine ralentissait, ce que pour nous elle va faire dans le courant du deuxième trimestre, derrière on aura une troisième phase de quantitative easing. Il n'y a aucun débat sur les mécanismes de réponse de politique monétaire à un problème conjoncturel. En Europe, en revanche, en Europe, il n'y a pas beaucoup de débats à ce sujet. La Banque centrale européenne a dit très clairement qu'elle a arrêté de baisser ses taux. On est à 1% sur les taux de la BCE. On s'arrête là. L'inflation en Allemagne ne permet pas pour eux d'aller plus loin. Et s'il y a eu deux programmes d'injection de liquidités, qu'on a surnommés les LTRO 1 et 2, il n'y a pas de numéro 3 dans les tuyaux. Donc on a affaire à des banques centrales qui ont des positions de fonds plutôt bienveillantes, en revanche qui ne sont pas nécessairement extrêmement actives à court terme. L'américaine viendra avant l'européenne.
Alors, on sent bien que la difficulté, hein, pour les investisseurs, on va dire, du monde entier, c'est d'aller chercher du rendement, alors avec le moins de risques, mais on sait très bien que dans ce jeu-là, c'est très compliqué. Justement, on voit le high yield, par exemple, ces obligations à rendement qui se tiennent bien. Quel type, justement, d'allocation d'actifs se dessine dans ce paysage qui reste, on va le dire, encore un peu chaotique?
Alors, j'aurais tendance à dire que les grandes banques centrales, disons américaines, anglaises, européennes et japonaises, vont rester à taux zéro ou à taux extrêmement faible très longtemps, au moins pour 2-3 ans. Donc la partie longue de la courbe, les obligations d'État, vont rester sur le niveau de taux d'intérêt extrêmement faible, c'est-à-dire qu'on est en quête de rendement quand on voit l'ensemble des placements qui sont offerts. On est en manque de rendement sur les produits obligataires courts ou longs. Donc il y a un redéploiement des capitaux qui se fait dans les actifs à plus haut rendement. Il existe des actifs à haut rendement dans les marchés d'actions, ça s'appelle les valeurs de dividendes. On commence à voir quand les dividendes sont sécurisés, des communications d'entreprises, on commence à voir des rachats d'actions, des entreprises qui communiquent en disant non seulement on vous sert un dividende, mais il est bien sécurisé. Donc j'inviterai à concentrer les portefeuilles pour ceux qui font des marchés d'actions là-dessus. Et puis à côté, on va trouver effectivement dans les marchés des obligations privées émises par les entreprises des compartiments à plus haut rendement qui nous paraissent très attrayants.
Peut-être en conclusion, quels sont les risques que l'on peut mettre le plus en avant et peut-être duquel il faut le plus se méfier? On pense bien sûr à ce qui se passe sur le pétrole, mais par nature, c'est compliqué d'avoir un scénario très très clair sur ce sujet. On sait qu'il y a des tensions, on a vu effectivement le prix à la pompe pour ce qui nous concerne. Quels sont les risques que vous mettez en avant et sur lesquels peut-être il va falloir être attentif sur les prochains mois?
Effectivement, le prix du baril peut continuer à déraper. Nous, on pense qu'il peut toucher les 140 ou les 150 dollars une fois que les combats contre l'Iran sous forme militaire ou autre, hein, mais en tout cas il y a une opération qui va viser à freiner les développements des militaires nucléaires en Iran. Donc ça peut pousser le prix du baril et freiner l'économie mondiale, provoquant le QE3 américain. De l'autre côté, le principal risque est la poursuite du ralentissement chinois, qui a déjà commencé il y a 18 mois, qui se poursuit sans s'accélérer. Mais pour l'instant, toutes les nouvelles qui nous proviennent de Chine sont plutôt inquiétantes. Ralentissement structurel de l'économie et politique de relance très timide. Donc c'est un risque majeur pour l'ensemble des marchés mondiaux.
Voilà, sans anticiper un hard landing, comme
non.
Disent les anglo-saxons.
Non, il y a des facteurs qui permettent de soutenir si les scénarios devaient être de chute libre. Donc on n'en est pas là pour l'instant. Mais on avait une croissance de 12% il y a 2 ans. On est passé à 11, à 10, à 9, à 8. On nous annonce 7,5 bientôt. On voit que la croissance n'est plus aussi vigoureuse que ce qu'elle a pu être depuis 10 ans.
On ne peut plus parler de décorrélation finalement.
Beaucoup plus difficilement qu'auparavant.
Merci Alain Bokovzad d'avoir fait le point avec nous. On rappelle que vous êtes donc responsable de l'allocation d'actifs mondial à la Société Générale.
Merci.